إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، on est toujours dans la série de cours de en guise d'explication de Cheikh Obaid al-Jabiri, حفظه الله تعالى, des six fondements de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, رحمه الله تعالى. On termine aujourd'hui le troisième fondement et on commence le quatrième, inshallah. Donc on est arrivé à la parole pour les frères qui ont la même édition que moi du livre qui s'appelle, qui a pour titre « Tanbih dhawi al-uqul al-salima ila fawaida mustanbata min al-sittati al-usul al-azima li shaykh al-islam Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullahu ta'ala » wa huwa ta'lifun li fadilati shaykh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulayman al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقا. Et donc c'est l'édition de Maktabat al-Furqan que j'ai ici et c'est la page 69. On est arrivé à la parole du Cheikh Ubaid حفظه الله. أقول هذا الجانب أعني نصيحة ولاة أمور المسلمين، هل الأمر فيه متروك لاجتهادنا وعقولنا أم تولى بيانه الشرع الشارع؟ فهذا السؤال والشيخ يجيب عن هذا السؤال، وثم هنا سؤال ثاني، وإذا كان الشارع الحكيم قد تولى ذلك فما بيانه وكيف ينصح المسلم ولاة الأمور وفق الشرع؟ فيقول الشيخ عبيد حفظه الله تعالى: نقول روى ابن أبي عاصم في السنة والإمام أحمد في مسنده وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليبديها علانية وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى الذي عليه. فالحديث دليل على ثلاثة أمور. نتخدي déjà ce passage. Cheikh Ubaid il dit: j'ai dit cette affaire, c'est-à-dire le conseil au gouverneur des musulmans, est-ce que cette affaire est laissée? Donc évidemment, vous comprenez que c'est une question ici, et on va répondre à cette question, inshallah. Est-ce que cette affaire est laissée à notre effort d'interprétation, à notre ijtihad, et à nos raisons, ou le législateur l'a clarifié? Et si le législateur, donc il y a une deuxième question qui découle de la première, c'est quoi? Et si le législateur l'a clarifié, qu'en est-il? Et comment le musulman doit-il faire le conseil au gouverneur en conformité à la législation? Et quand on parle de législation, c'est évidemment de la législation islamique. Et Cheikh, il répond lui-même et il dit: nous disons, Ibn Abi Asim a rapporté dans As-Sunnah, et je vous avais déjà parlé de l'importance de ce livre, de cet ouvrage-là, As-Sunnah, d'Ibn Abi Asim, et l'imam Ahmed, dans son Musnad, donc vous voyez, c'est deux grands imams parmi les imams de la communauté, dans son Musnad et d'autres encore que eux deux, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui doit conseiller le gouverneur, qu'il ne le fasse pas publiquement, mais qu'il le prenne par la main et s'isole avec lui. S'il accepte, il l'accepte, et s'il la rejette, il se sera acquitté de son obligation. Ce hadith est donc une preuve sur trois choses. D'accord? Et maintenant on va les lire en arabe et on les traduira petit à petit, inshallah. Cheikh il dit: أولا السرية التامة في المناصحة للحاكم حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن. ثانيا براءة الذمة بمجرد النصيحة على هذا الوجه الذي تضمنه الحديث. ثالثا أنه لا تبعة على من لا يقدر على النصيحة للحاكم سرا، لأنه لا تكلف نفس إلا وسعها، ولأن هذا الطريق هو ما جاء عن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو رضي الله للعباد والبلاد غيره لجاء بيانه في الكتاب أو في صحيح السنة، فكان لزاما على كل طالب للحق والهدى الوقوف على هذا النص. دونك اسك الشيخ عبيد الجابري نودي حفظه الله تعالى قال الله بريزيرف دو تو مال دون سيت دنيا لا ريكومبانس بار الفردوس الاعلى في الاخره، il dit ce hadith est donc une preuve sur trois choses: le secret, la discrétion si vous voulez complète dans le conseil fait au gouverneur, et cette discrétion est même à l'égard des gens qui sont proches de lui, et ce autant que possible. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on prend, rahmoukallah ? Ce qu'on prend de comme première faïda de ce hadith, c'est quoi ? La discrétion complète. Même des gens qui sont proches du gouverneur, autant que possible. Et cette discrétion, comme on a dit, elle est complète, et même à l'égard des gens qui sont proches de lui, et ce autant que possible. Qu'est-ce qu'on va dire alors des gens qui ne sont pas proches de lui ? C'est ça qu'il faut comprendre ici. Deuxième point qu'on tire du hadith, on se dégage de la responsabilité dès que la nasiha est faite, de la manière qui est rapportée dans le hadith. Et ça, c'est un point important. Si tu es sincère, tu le fais nasiha, et tu le fais comme c'est rapporté dans la sunna, et si le hakim ne l'accepte pas, ben toi tu t'es acquitté de ce qui t'était obligatoire. Troisième point tiré du hadith, il n'y a pas de charge, de responsabilité sur celui qui n'en est pas capable. C'est-à-dire de faire quoi ? De faire la nasiha au gouverneur. D'accord ? De faire la nasiha discrètement au gouverneur, car il n'est demandé à l'âme que ce qu'elle peut supporter. Et car cette manière est celle qui vient d'Allah. Donc si tu n'es pas capable de faire la nasiha discrètement comme c'est rapporté dans la sunna au gouverneur, eh bien Allah n'a pas demandé à une âme plus que ce qu'elle peut supporter. Car cette manière est celle qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala par la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il a dit ça le cheikh ici ? Il fait référence à quoi ? Au hadith qu'on vient de citer. C'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle avec quoi ? Avec la révélation. Qui s'est donné un délit du Coran ? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِلَّا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى Surat al-Najm, na'am. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle que par la révélation. Si Allah agrée quelque chose d'autre que cela pour ses serviteurs, c'est-à-dire quoi? Autre que la nasiha de fait de manière discrète au gouverneur. Mais qu'est-ce qui serait passé? La clarification, elle aurait été faite. Parce que c'est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Dans le Coran ou l'authentique de la sunna. Il incombe donc à celui qui cherche la vérité et la guidance de s'arrêter, le wukuf en arabe, de s'arrêter à ce texte, de se limiter à ce texte, et de ne pas aller plus loin que le texte. L'imam Shawkani, rahimahullah, il a dit une parole dans As-Sayl al-Jarrar, on va lire ça, قال l'imam Shawkani, rahimahullah, fi As-Sayl al-Jarrar, ولكنه ينبغي لكل من ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبدل له النصيحة ولا يذل سلطان الله عز وجل. وقد قدمنا في أول كتاب السير هذا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. Donc qu'est-ce qu'on prend de ce deuxième point de cette parole de Shawkani, pardon, ici? Il dit l'imam Shawkani رحمه الله dans son livre qui s'appelle As-Sayl. As-Sayl, As-Sayl avec l'âme Al-Jarrar. Mais il convient à toute personne à qui il apparaît l'erreur de l'imam dans certains points, On n'avait jamais porté une parole du Cheikh Mohamed Amal Jami, rahimahullah, le fameux Cheikh de Médine qui est décédé, rahimahullah, et qui était le directeur des hautes études dans l'Aqida à l'université de Médine, que Cheikh Ben Baz d'ailleurs a placé lui-même à cet endroit-là, et qui les chouyours, comme on avait dit, appelaient, lui donnaient le surnom de Al-Ustad. Il était très respecté. Il a fait de très très beaux ouvrages, notamment As-Sifat ou l'Ilahiyya, un très très gros volume dans tout ce qui concerne l'ilm As-Sifat. Et bien Cheikh Mohamed Amal Jami, il a dit, je ne sais pas ce qu'ils veulent les gens. أيريدون أن يكون الحكام ملائكة منزلين من السماء؟ Est-ce qu'il a dit, est-ce que les gens, ils veulent quoi, que ce soit des anges, que les hukam soient des anges qui descendent du ciel? Pourquoi j'ai rapporté ça ici? Parce que celui à qui l'erreur de l'imam apparaît dans certains points. Et évidemment, l'imam va faire des erreurs. Kuli bani Adam khatta. Alors maintenant, c'est quoi le kayfiyat al-ilaj? Comment est-ce que tu te comportes? Et comment est-ce que tu... Parce que c'est ça le but du musulman, c'est de rétablir, réformer la situation. C'est pas d'amener un munkar plus grand, comme le font les khawarij par exemple. Et ça c'est une erreur que beaucoup de gens ont. Ils n'ont pas de dawabit, des règles, des conditions, de ce qu'on appelle fiqh. Al-amr bil ma'aruf wa nahy anil munkar. C'est un fiqh. C'est un fiqh très précis où les ulama ils ont pris du corps de la sunna des dawabit et des conditions et des règles là-dedans. D'accord? Et bien qu'est-ce qu'il dit l'imam Choukani rahimahullah? Il dit l'erreur de l'imam dans certains points, et bien qu'il le conseille et ne soit pas dur envers lui, au vu de tout le monde. Mais de plus, comme cela a été rapporté dans le hadith, il se doit de le prendre par la main et de s'isoler avec lui, hein, et de le conseiller. Et certains tekfiris, quand vous leur rapportez ce genre de hadith, ils rigolent. Et ça, hadith du prophète, taqillah, ya akhi. Moi, ça m'est déjà arrivé. Le frère, il sourit, oui. C'est un hadith du prophète, alayhissalam. C'est un din. Toi qui, soi-disant, appelle, hein, à ce qu'on revienne au Coran, à la Sunna, dans le jugement. Et ouais, reviens là-dedans dans le jugement, alors. Reviens sur ce point-là, dans le jugement au Coran, à la Sunna. Le hadith, il est clair. Il se doit de le prendre par la main, et de s'isoler avec lui et de le conseiller. Et de ne pas humilier le sultan que Allah a placé. Et nous avons vu précédemment, c'est Choukani qui parle évidemment, au début du livre, des biographies, qu'il n'était pas permis de se rebeller contre les gouvernants. Voilà, on en a encore un texte qui renforce ce qu'on disait depuis tout le début du troisième fondement. Et c'est ici, de quoi, hein? On a dit quoi? C'est gouvernant, j'ai dit. C'est la même chose dans le français, non? Il y a une différence? Ouais, gouvernant, gouverneur? Non? Alors que les hal, ceux qui gouvernent, hein, les gouvernants, on va dire, comme ça. Et ce, quel que soit le degré d'oppression auquel ils sont arrivés, tant qu'ils établissent la prière et qu'il n'apparaît pas d'eux une mécréance claire. Et les hadiths à ce sujet sont mutawatir. Mais il est obligatoire au sujet, hein, c'est-à-dire au sujet qui est sous la responsabilité du gouvernant, un sujet du peuple, d'obéir à son gouverneur dans l'obéissance d'Allah. On avait déjà parlé de cette condition, évidemment. C'est pas une qu'on appelle quoi, une ta'a mutlaqa. On avait déjà dit ça. Mais elle est muqayyada. Elle est restreinte par une restriction qui est quoi? Que cette obéissance, elle doit se faire dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, alayhi salatu wassalam. Évidemment. Hein? Donc, il est obligatoire au sujet d'obéir à son gouverneur dans l'obéissance d'Allah et de lui désobéir dans la désobéissance d'Allah, car il n'y a pas d'obéissance au Créateur dans la désobéissance afwan. Il n'y a pas d'obéissance aux créatures dans la désobéissance au Créateur, subhanahu wa ta'ala. Fin de citation de l'imam Choukani, rahimahullahu ta'ala. Maintenant, question. Si maintenant quelqu'un, il voit qu'il doit désobéir parce que le gouvernant lui, ou le gouverneur, il lui ordonne de faire quelque chose de haram, d'accord? Ben, il doit lui désobéir. Mais est-ce que ça veut dire qu'il doit lui désobéir dans tout le reste aussi? Ça, c'est aussi un fiqh à avoir, bien sûr. Attention. D'accord? Il ne peut pas lui dire. Dans ce point-là, il lui désobéit, bien sûr, parce que c'est une désobéissance. Allah Azza wa Jal. Mais dans le reste, l'asli reste. D'accord? Le troisième point. Al-mas'alatu thalithatu fi shubuhati allati ya'riduha ahlu shatati wa hiya kathiratun jidda. Lakin naqul hakada idha ghalaba al-hawa. يرد الناس إلا من رحم الله سنة صحيحة صريحة ويركبون البدع ويكون الضلال. Donc ça c'est le dernier des points qu'on va traiter dans ce troisième fondement qui était très long. Hein? C'est quoi? C'est sur à la fin, après le dalil du Coran, de la sunna, les paroles des salaf, etc. Et comment, l'obligation de nasiha, et comment il faut faire la nasiha, etc. Maintenant, c'est quoi? Eh bien, il reste à traiter le domaine des shubuhat. Et ça fait partie du bon enseignement des Cheikh Abel Jabiri de nos ulama, c'est qu'ils te montrent le haq, et ils te mettent en garde sur le batil. Et ils te disent déjà les ambiguïtés que les gens de l'innovation, les gens du batil apportent pour que tu puisses te protéger et puisses répondre à ces ambiguïtés-là. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Ubayd al-Jabiri Hafidhullah? Il dit le troisième point qui concerne les ambiguïtés qu'amènent les gens de l'égarement. Et elles sont très nombreuses, évidemment. Mais nous disons, c'est comme ça. Si la passion se fait la plus forte, les gens rejettent la sunna authentique, claire. Sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Ils rejettent la sunna claire, authentique, et font des innovations et tombent dans l'égarement. Parmi les ambiguïtés, on va citer maintenant certaines ambiguïtés. فَمِنَ الشُّبُهَاتِ إِنْكَارُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى أَمِيرِ الْمَدِينَةِ مَرْوَانِ بْنِ الْحَكَمِ حِينَ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ أَوْ خُطْبَةَ الْعِيدِ عَلَى الصَّلَاةِ قَالُوا فَجَذَبَهُ وَهَذَا إِنْكَارٌ عَلَانِي نَقُولُ هَذِهِ الْقِصَّةُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ وَلَفْظُ الْحَدِيثِ. Donc on rapporte déjà la première ambiguïté ici. Et ça, c'est une chose importante. C'est pour ça, maintenant, c'est Haya Ikhwa. Il ne faut pas débattre avec les gens de l'innovation. Hein? Les frères, des fois, ils réagissent avec les sentiments. Oui, mais après, on doit montrer le haq aux gens, etc. Mais la question, est-ce que tu es capable, hein? Est-ce que tu es capable de te confronter à quelqu'un comme ça et qu'il y a des ambiguïtés? Parce qu'évidemment, il y a des ambiguïtés. Il se base sur des choses qui ne sont pas justes, mais il se base sur des arguments, etc. D'accord? Hein? C'est pour ça que c'est la nasiha d'ailleurs de Cheikh Abou El Jabiri et des ulama, ne perdez pas votre temps avec Ahl Bida al-Ahwa, avec les Hizbiyoun. Faites da'wa ou awam. Parce que les awam, ils sont avec le premier qui vient avec. Si un salafi vient, ils vont être avec lui, inshallah. Hein? Tu tires plus de bénéfices et de profits de ton temps et de tes actions, et tu te protèges plus en faisant da'wa aux gens qui ne savent pas, tu leur montres le haq directement. Et tu les mets en garde sur le batil, plutôt que de perdre ton temps avec des gens d'innovation, et en plus, de te mettre en situation de danger. C'est certains frères, des fois, ils disent, non, mais, alhamdoulilah, je sais sur quoi je suis, etc. Taqillah, fi nafsika, akhi. Et taqillah, fi nafsika. Les a'imats salaf, ils avaient peur pour leur dîn. Hein? Et vous connaissez tous l'histoire du salaf, hein, qui s'est marié avec une harouri, une kharijia, et après, c'est lui qui est devenu khariji. Hein? C'est ça la vérité. Le shubuhat, comme les ulama disent, ils disent, si je me souviens bien, le qalb da'if, le shubha khattafa. Le cœur il est faible, le shubha khattafa. Katrtaf, comme on dit en arabe. Hein? Tartif. Elle te prend, hop, elle te saisit, elle te happe. Voilà, happe le mot. Hop, elle te prend. Pourquoi? Parce que le mot shubha, la sens linguistique, c'est que ça ressent la vérité, même si c'est pas. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Et combien de gens on a vu? Et comme on avait vu dans la Dora ici que Hassan Soumali l'avait rapporté dans son cours, il avait dit, un athar de salaf, il dit, Man akthar al-jidal, akthar al-tanakul. Celui qui débat beaucoup, il change beaucoup de madhab, de voix et de secte et de groupe. D'accord? Et comme l'imam Malik, il y a quelqu'un qui lui a proposé un débat, il lui a dit, hein, il a dit, si tu gagnes, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, tu me suis. Il a dit, si je gagne, qu'est-ce que tu fais? Hein? Il a dit, je te suis. Il a dit, si maintenant il y a un troisième qui vient, et qui nous gagne à tous deux, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, on le suit. Il a dit, pars. Hein? Si toi tu es en doute dans ta religion, moi je suis en certitude par rapport à ma religion. Hein? D'accord? Il faut faire attention, et c'est une des méthodes particulièrement des tekfiris. Hein? Parce qu'ils savent qu'en général, les frères sont salafis, etc., ils ne connaissent pas assez bien le ménage, ils ne connaissent pas assez bien, ils n'ont pas des sciences, une science profonde du Coran, de la Sunna, etc. Et les frères qui sont un peu faibles, ils veulent débattre, ils veulent expliquer, ou ils veulent faire le bien, etc. Et c'est une des manières qu'ils ont de récupérer. Et ils en ont récupéré. Il faut savoir ça. Tu vois le frère sur la sunna, machallah, etc. Et puis un jour tu le vois, il parle en mal des ulama jusqu'à ce qu'à un certain point, on a déjà vu même certains, ils rendent mécréants les ulama. Donc il faut faire attention. Pourquoi j'ai rapporté ça ici? C'est pour dire qu'il y a des ambiguïtés. Mais alhamdoulilah, nous ici, on les étudie les ambiguïtés dans un cadre sain. Hein? On est entre salafi, c'est un savant salafi de l'ahl sunna wal jama'a qui te dit le haq, il te montre choubwa d'ahl bid'a al awa, il les traite directement. Donc tu n'es pas en position de danger, inshallah. Hein? Vous voyez la différence? Donc on a dit quoi ici? Parmi les ambiguïtés, il y a le reproche d'Abu Sa'id al-Khudri, fait au prince de Médine Marwan ibn al-Hakam. Peut-être que certains d'entre vous n'ont même jamais entendu à propos de cette histoire. Alors imagine-toi maintenant quelqu'un qui vient et qui te parle de cette histoire-là. C'est ça, il faut se mettre dans ce contexte-là. Hein? D'accord? Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, fait au prince de Médine Marwan ibn al-Hakam. Inkar, le reproche qu'il lui a fait. Lorsqu'il a fait passer la khutbah du Eid avant la prière. Alors maintenant, où est le mal là-dedans de faire passer la khutbah de l'Eid avant la prière? C'est quoi la sunnah? Vous priez l'Eid quand même. Vous savez comment ça se passe le jour de l'Eid. C'est quoi qu'on fait en premier? La prière et puis la khutbah. D'accord? Est-ce que maintenant le fait d'assister à la khutbah c'est obligatoire? Non. D'accord? Tu assistes à la prière et puis les gens qui veulent rester écoutés, ils restent écoutés. D'accord? Vous suivez là. Maintenant qu'est-ce qu'il a fait Marwan ibn al-Hakam? Il a fait passer la khutbah avant la prière. Et Abu Sa'id radiallahu anhu wa arda al-Khudri, il lui a reprocher cela. On va analyser tout ça. Regardez l'ambiguïté, vous voyez, hein? Il a dit, il a fait passer la khutbah du Eid avant la prière, ils ont dit qu'il l'a tiré. Jadabahu. Et ceci est un reproche fait en public, parce que c'est un amir, un gouverneur. Ah ouais, il y a des choubouhat. Il y en a certaines, elles sont dangereuses, elles sont profondes, et, hein? Elles sont structurées. D'accord? Nous répondons en disant, d'accord? Cette histoire, et voilà l'alim qui est Thabat, hein, la montagne qui est là, qui est là où Shubha elle vient, lui, il analyse et il réfute. Hein. C'est pour ça que Cheikh Al-Athim, il disait toujours, Rahimahullah, pour, ce qui t'empêche de tomber dans le Muharramat, c'est le taqwa. Et dans Shubha, c'est l'ilm. Parce qu'avec l'ilm, tu discernes le faux du vrai. Tu as cette faculté de quoi qu'Allah te donne à ce moment-là de discerner. Donc le hadith, regardez la méthodologie du shir. Il dit, nous répondons en disant, cette histoire est dans l'authentique de muslim. Nous, on la connaît cette histoire. Comme cela. Hein? Cette histoire, elle est dans l'authentique de muslim. Et d'autres livres. Et la formulation du hadith est. On sait de quoi tu parles. D'après Abu Sa'id al-Khudri, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortait le jour de la fête du sacrifice et le jour de la fête de la rupture du jeûne. Et commençait par la prière. Il priait et saluait, puis se levait et faisait face aux gens alors qu'ils étaient assis dans leur musalla. Parce que la sunna dans l'Eid, c'est de prier dans le musalla. Alhamdulillah, nous on applique cette sunna ici à Birmingham. On l'a pris dehors, la salat l'Eid. On l'a pris au parc. Wallillahi alhamd. S'il avait un besoin d'envoyer, il le faisait savoir aux gens. Ou s'il avait un autre besoin, il leur ordonnait et il disait tasaddaqou, tasaddaqou, tasaddaqou. Donnez l'aumône, je vais lire en arabe après, inshallah. Donnez l'aumône, donnez l'aumône. Donner l'aumône. Et ceux qui donnaient le plus en aumône étaient qui? Les femmes. An-Nisa. Puis ils partaient. Cela resta comme cela jusqu'à ce qu'arrive Marwan ibn al-Hakam. Je sortis alors Mukhasiran Marwan. Je vais m'arrêter là puis je vais lire ce qu'on a lu déjà en français, en arabe, vous allez mieux comprendre. Maintenant le terme Mukhasiran Marwan. Regardez encore une fois, ça implique quoi l'apprentissage de la langue arabe? Si quelqu'un te rapporte une ambiguïté comme ça, tu te fais, non, le hadith est dans Sahih Muslim, pas de problème. Lis le hadith, on le lit ensemble. Kharajtu mukhasiran marwan. Qu'est-ce que ça veut dire mukhasiran marwan? C'est pas de monter sur le minbar et de parler sur le hukam. D'accord? Ou de passer à la télévision, de critiquer le hukam et d'appeler à la révolution, à la rébellion, etc. Et après d'inventer des nouveaux termes, on entend maintenant les martyrs économiques. Quel martyr? On parle des gens qui se font, qui se brûlent eux-mêmes. Ils appellent les martyrs économiques. A'oudou billah. Je vous lis la partie en arabe parce que c'est intéressant sur ce point-là ici. Il dit La shakka. On a dit le hadith. An Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yakhruju yawm al-adha wa yawm al-fitri. فيبدأ بالصلاة فإذا من صلى صلاته صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس. وقفوا الترتيب سي صلى صلاته فقام فأقبل على الناس. Donc qu'est-ce que le prophète عزيزي, qu'est-ce qu'il faisait en premier? Il priait. Puis que lorsqu'il finissait sa prière, il se levait et il faisait face aux gens, comme on a dit en français déjà, d'accord? وهم جلوس في مصلاهم فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول تصدقوا 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 وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فخرجت مخاصرا أبك الصاد مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا أو منبرا عفوا من طين ولبن وحفن ولبن فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة فقال لا يا أبا سعيد يعني أبو سعيد الخدري قد ترك ما تعلم قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات ثم انصرفا. Donc qu'est-ce qu'il dit ce hadith-là maintenant au niveau du Mukhasir al-Marwan? Et c'est Abu Sa'id al-Khudri qui parle, c'est lui Rawi al-Hadith. Il dit, Mukhasir al-Marwan, et pour comprendre ce que ça veut dire Mukhasir en la langue arabe, j'ai été voir dans ce que dit l'imam Nawawi rahimahullah. L'imam Nawawi rahimahullah, et vous pouvez deviner dans quel livre j'ai été chercher, parce qu'on parle de Sahih Muslim, le sharh de Sahih Muslim de l'imam Nawawi rahimahullah qui s'appelle Al-Minhaj, fi sharh Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Il dit, فخرجت مخاسرا مروان أي مماشيا له يدي يده في يدي هكذا فسروه. Je suis sorti, l'imam Nawawi rahimahullah, comme il a dit dans son explication de Sahih Muslim, il dit, c'est-à-dire مخاسرا مروان en marchant à côté de مروان, sa main dans ma main. Voilà comment ils l'ont expliqué. Jusqu'à ce qu'on فخرجت مخاسرا مروان حتى أتينا المصلى. Jusqu'à ce qu'on arrive à la musalla. Kathir ibn Salt avait construit un minbar de boue et de torchis. Et torchis en arabe c'est libnun, ou labinun. Je fais une petite erreur tout à l'heure. Comme j'ai dit, il y a deux lugas, c'est labinun ou libnun. C'est quoi? C'est du torchis. Marwan commença à me disputer de la main et à me tirer vers le minbar et moi de le tirer vers la prière. Donc Abu Sa'id le tire vers quoi? Vers la prière, et Marwan ibn al-Hakam le tire vers le minbar. D'accord? Lorsque j'ai vu cela de lui, je dis, où est le commencement par la prière? Parce que c'est ce qu'il connaissait du prophète alayhi wa sallam. Il dit, non, Abu Sa'id, ce que tu sais a été délaissé. Je dis, certainement pas. Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, c'est-à-dire je jure par Allah, que vous n'amènerez rien de mieux que ce que je sais. Comme l'a dit Nawawi, car ce qu'il sait, c'est la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment tu peux amener mieux que ça? C'est ça qu'il faut comprendre ici. Comment ce qui est autre que la sunna pourrait être quoi? Meilleur. Il dit cette parole trois fois, puis ils quittèrent l'endroit, ils partirent. L'imam Nawawi rahimahullah, il a rapporté d'Al-Qadi, ça c'est pas dans le livre ici, que le sens de cela n'est pas qu'il soit parti. Parce qu'attention, ils vont dire « Fansarafa ». Ils vont croire, ils vont dire « Ah, ta vie, il n'a pas prié avec Marwan ibn al-Hakam. » Ah, et qu'est-ce que tu dis maintenant? Ben, on va leur répondre tout simplement que le sens de cela n'est pas qu'il soit parti. Il n'avait pas prié avec Marwan, mais plutôt qu'il est parti du côté du minbar vers le côté de la prière. Car dans une version du hadith d'Al-Bukhari, vous voyez qu'on n'a pas d'ilm. Il va te jeter ça, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le regardes avec grands yeux ouverts. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler, ya ikhwa. Dans une version du hadith al-Bukhari, qu'il a prié avec lui, puis il a parlé à ce sujet après la prière, encore avec lui. Maintenant, si toi, tu ne connais pas cette narration de l'imam Bukhari, il y a un doute là, qui s'est installé dans ton cœur. D'accord? Comme certains frères, dit un jour, oui, alhamdoulilah, j'ai été vérifié dans le livre sur l'Uthaymin. Eh, akhi, t'es déjà fait une grave erreur. Par le fait que tu as écouté, première erreur, que c'est rentré dans ton cœur, deuxième erreur, et que tu as dû aller vérifier. Hein? Faut même pas écouter. Aslan, comme on dit, faut même pas écouter. Ce qu'il a dit sur l'Uthaymin, prends le toit de sur l'Uthaymin directement. T'as pas besoin que lui te mette un doute pour aller chercher ce qu'il dit sur l'Uthaymin. Rahimahullah. Donc on a dit quoi? Il y a une version du hadith de Bukhari qu'il a prié avec lui, puis il a parlé à ce sujet après la prière. Ce qui indique l'authenticité de la prière après le sermon. Car si ce n'était pas valide, il n'aurait pas prié avec lui. Donc qu'est-ce qu'il lui a reproché? C'est qu'il n'a pas fait la sunna. Mais il a comme prié avec lui. Et si ce n'était pas valide, il n'aurait pas prié avec lui. D'accord? Et vous voyez que Salaf, comment ils étaient, il a quand même prié avec lui. Je dis, ce n'est pas moi évidemment qui parle, c'est Cheikh Oubed al-Jabiri. قلت لا شك في صحة الحديث كما ترى كما أنه لا شك في ظهور إنكار أبي سعيد على أمير المدينة مروان صنيعه في تقديم الخطبة على صلاة العيد ولكن غفل القوم عن أمور في الحديث لو عقلوها لأراحتهم من تلك الشبهة وهي هذا شو عبيدكم يبغى ها يديك quoi je dis il n'y a aucun doute sur l'authenticité du hadith comme vous pouvez le voir comme il n'y a aucun doute sur le reproche fait par Abu Sa'id au prince des croyants quant au fait qu'il a fait passer le serment avant la prière de la fête. Mais ces gens qui rapportent cette ambiguïté n'ont pas fait attention à certaines choses dans ce hadith qui, s'ils y avaient pensé, cela les aurait apaisés de cette ambiguïté. Femme, non sauce, il n'y a pas le femme. Parce que souvent, hein, souvent, et ça j'avais écouté une fois six cassettes de Cheikh Salim Tawil du Koweït, il a fait un débat avec un tekfiri. Hein. Souvent quand un tekfiri est dans un pays, hein, il annonce à tout le monde, oui, moi je lance un défi à tous les gens de faire des débats, etc. Il fait ça, ils font ça pour se faire connaître et pour faire croire aux gens qu'il y en a qui sont sur la vérité et qui savent sur ce quoi ils sont. Alors, les mu'allim, ils n'ont même pas prêté attention à cette personne-là, mais Cheikh Salim Tawil, il a répondu à ça. Et il l'a fait pour une raison qu'il a expliquée dans les six cassettes. Donc, comment ça se passe? Ils sont dans une mosquée et Cheikh Salim Tawil, il débat avec lui. D'accord? Première cassette, c'est que le tekfiri qui parle. Et il rapporte que des ambiguïtés. Même lui, des fois, on le remarque nous-mêmes, quand on l'écoute, il y a des contredits. D'accord? Et Cheikh patient, il dit rien. De temps en temps, il arrête, il fait, ah, Ibn Qayyim, quel livre tu as cité? D'accord. Et il continue. Hein? Après, c'est Cheikh qui parle. D'accord? Et vous voyez la méthodologie, mais c'est un Cheikh qui parle, c'est un Cheikh qui débat avec lui. Et il a montré la raison pour laquelle il a parlé avec lui. Il a dit, c'est pas toi, c'est les gens qui sont autour de toi qui m'intéressent. À la fin, il lui a dit, hein, quand le tekfir après six cassettes, il ne sait plus quoi dire, il s'arrêtait que pour la prière. Hein? Quand le tekfiri ne savait plus quoi dire, il lui a dit, va prendre ton dinar. Hein? Et pourquoi j'ai rapporté cette histoire? Parce que vous voyez dans les six cassettes, hein, je les ai pour ceux les frères qui veulent en un CD, hein, c'est que le tekfiri en question, il n'a pas été voir dans les sources. Il rapporte ce que ses chiouks à lui disent. Donc qu'est-ce qu'il fait Cheikh Salim Tawil? Tekfiri rapporte Qal Ibn Qayyim rahimahullah. Il dit, ah oui, Ibn Qayyim il a dit ça. Il envoie un de ses tullab, il va chercher le livre. Il a mis le livre et il fait, voilà ce qu'a dit Ibn Qayyim rahimahullah. Il lui dit, est-ce que tu as lu toi-même la parole d'Ibn Qayyim? Hein? Évidemment, à un moment ou à un autre, il est obligé de dire non. Hein? Il lui dit, voilà, ça c'est une erreur méthodologique, ça, de ceux qui n'ont pas appris chez les ulama. Tu vois, quand on cite une parole d'Ibn Qayyim, rahimahullah, tu retournes dans le masdar et tu lis tout le chapitre. Parce que qu'est-ce qu'il faut les ulama des fois, comme Ibn Qayyim, rahimahullah? Et le tekfir, ils utilisent beaucoup des paroles d'Ibn Qayyim dans ce qui tout concerne le hukm yirma anzalallah. Ils citent une partie du texte. Et Yabtoroun, al-Batr, on appelle ça. Hein? C'est-à-dire quoi? Batr al-Kalam, c'est qu'il coupe et il ne cite pas la fin. Et ce qu'en arabe on appelle al-Hikay wa al-Taqrir. Ibn Qayyim, rahimahullah, il rapporte des paroles qui sont fausses. Yahki. Hal yuqarrir? Là. Est-ce qu'il établit ça comme une vérité? Non. Et à la fin, il dit wal-Hakku. Et hein, il analyse ça, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire les tekfiri, vous pensez? Prends la partie du texte Ibn Qayyim, rahimahullah, où il cite les erreurs des gens. Et ils vont attribuer ça à Ibn Qayyim, rahimahullah. Et c'est pour ça que vous avez quelqu'un devant vous qui dit, non, Ibn Qayyim, il a dit. Hein? Et Ibn Qayyim, il n'a pas dit. Wallah, il a dit. Il n'a pas dit, Akhi. Hein? Et va lui retirer ça de la tête après qu'Ibn Qayyim, il n'a pas dit. Hein? Et c'est encore plus vrai quand c'est un tekfiri francophone, ce qui m'est déjà arrivé. Je dis, Akhi, tu me rapportes des choses en français. J'ai dit, déjà, ta chaîne de transmission, elle est plus longue que la mienne. Parce que moi, j'ai pris directement du livre en arabe, toi, tu prends déjà par quelqu'un qui traduit pour toi. D'accord? Donc, tu vas comprendre que je vais quand même faire confiance à ce que moi je prends directement des livres, plutôt que toi tu prends la traduction de quelqu'un que je connais même pas. D'accord? Et qu'apparemment, vu ce qu'il te dit, je sais que c'est pas quelqu'un des gens de la sunna. D'accord? Hein? Alors il dit, ouais, mais, akhi, j'ai pas besoin de l'arabe pour comprendre le tawhid. C'est clair, c'est évident. Subhanallah, ya ajab. Pas besoin de l'arabe pour comprendre le tawhid. J'ai jamais entendu un savant dire ça. C'est ça, choubouhat. Entre des gens qui vont sur internet, ils écoutent un peu n'importe qui, ils débattent, ils vont dans des restaurants, etc. Ils rencontrent des frères, etc. Ils débattent, oui, akhi, non, toi tu dis ça, oui. Ben, si toi on discute, et kada, etc. Hein, au lieu de rentrer à la maison d'étudier. C'est ça le danger, ikhwa. Donc, Cheikh Salim Tawil, j'ai le CD pour celui qui veut une copie, etc. C'est vraiment très intéressant parce qu'il montre la méthodologie. Il lui dit, première chose, il lui dit, bon, t'as parlé pendant une cassette. Ce qu'on a fait, on avait dit que c'était un débat, ce que t'as fait, c'est pas un débat, c'est une muhadara. Ça, c'est pas un osloub dans le niqash déjà de 1. Il a fait t'as parlé pendant je sais pas combien de temps, tu laisses pas les gens parler. Il a dit, deuxième chose, il a dit, quelle est la shubha que t'a'tabiru an taqasimat duhur, ahl sunnah, ou le murji'a comme tu nous appelles. Yani, la plus grosse shubha qui nous brise le dos. Il a dit, voilà, c'est ça. Et après, Cheikh, il l'a démonté. Après tout ce qui était après, c'était facile. D'accord ? Et il, chaque fois, il lui montrait ses erreurs méthodologiques. Il lui dit, ce que tu dis là, parmi les ulama, parmi les quatre grands savants de cette époque, Cheikh Mokbil, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Albani a dit ça. Il a dit, aucun autre. Il a dit, moi, tu dis, Cheikh Al-Uthaymin a dit, je dis, mon Cheikh Al-Uthaymin a dit. Et voilà qu'est-ce qu'il a dit, parce que c'est mon Cheikh à moi, j'étudie chez lui. Et Cheikh Salim Tawil, c'est un élève de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Il dit, voilà, toi tu ne fais pas la différence entre ces genres de osoul. Et il explique, hein, c'est un peu un technique, etc. Mais c'est très intéressant pour les frères qui ont l'arabe, pour voir, de un, le danger des choubouhat. Parce que la personne, elle est là, elle y croit, elle défend, elle débat, etc. Et il y a des gens autour de lui, il a des suiveurs. D'accord ? Il dit, c'est quoi tes noms de teshuur d'abord ? Chez qui t'as étudié toi d'abord ? Il dit, deux noms, il dit, ah, les gens que tu m'as cités, ils ont même pas passé la quarantaine, ils ont la trentaine. Ils sont eux-mêmes pas connus pour avoir étudié chez les ulama. On s'est un peu écarté, mais en vérité, c'est important de rapporter ce genre de choses-là. On a dit quoi ? Donc voilà, maintenant ici, Cheikh dit, il n'y a aucun doute sur le reproche fait par Abu Saïd au prince des croyants quant au fait qu'il a fait passer le serment avant la prière de la fête. Mais ces gens qui rapportent cette ambiguïté n'ont pas fait attention à certaines choses dans ce hadith qu'ils, s'ils y avaient pensé, cela les aurait apaisés de cette ambiguïté. Les points sont, il va rapporter les différents points maintenant. Il dit, أولاً ما معنى المخاصرة في قول أبي سعيد فخرجت مخاسرا مروان فالجواب ما قاله ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية. Et ça c'est une source que vous avez citée très souvent dans les cours, et que je vous cite d'ailleurs encore toujours très souvent, c'est نهاية في غريب الحديث. Les mots, le gharib al-hadith, dans les ahadith, Ibn al-Athir, rahimahullah, il prend le mot dans ce hadith-là, par exemple, mukhasara dans ce hadith, qu'est-ce que ça veut dire ? Le mukhasara dans la langue arabe, etc., il explique. Donc, toi, tu es devant un hadith comme ça, tu ne sais pas ce qu'est le mukhasara, tu as le réflexe, tu vas voir al-nihayat Ibn al-Athir. Et ça a été publié en un grand volume, Adar Ibn al-Jawzi. Fakharaja mukhasara al-marwan. Al-mukhasara tu, an-ya'khud al-rajulu. بيد الرجل آخر يتماشيان ويد كل واحد منهما عند خسر صاحبه. D'accord. Donc le premier point que ces gens-là ils n'ont pas vu dans ce hadith, c'est quoi? C'est quel est le sens de mukhasara dans la parole d'Abu Saïd? خرجت مخاسرا مروان. La réponse elle est donnée par Ibn al-Athir dans Nihaya. Al mukhasara, c'est qu'un homme prenne la main par la main ou prenne la main d'un autre homme et qu'ils marchent tous deux main dans la main. La taille contre la taille. C'est-à-dire, accoler l'un à l'autre. Alors, c'est ça les tekfiris qu'ils font avec le hukam. Ils prennent par la main et ils font des nasihans discrets, etc. Ou ils parlent sur le minbar. Regardez la sunna et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Le haq, il est clair. Deuxième point qu'ils n'ont pas vu dans le hadith. أن عياض بن عبد الله بن سعد رواية أبي سعيد قال كما في إسناد مسلم عن أبي سعيد وهذا حكاية عن من عياض لصنيع أبي سعيد مع مروان من قوله أهني أن أبا سعيد حدثه تلك القصة. On s'est un peu technique ici, on va le traduire comme ça. Que عياض بن عبد الله بن سعيد, de la narration d'Abu Saïd, il dit, comme dans la chaîne de transmission de Sahih Muslim, d'après Abu Saïd, c'est le hadith qu'on vient de voir, et c'est un rapport de عياض sur l'action d'Abu Saïd avec Marwan par la parole, c'est-à-dire que Abu Saïd lui a rapporté cette histoire. On rapporte ça comme c'est. Celui qui a compris, l'a compris, alhamdoulilah. D'accord ? Troisième point. Thalithan, iktafa Abu Saïd bi tanbihihi Marwan ila sunnah wa inkarihi alayhi mukhalafataha faqad bal wasalla ma'ahu wa lam yattakhid min mukhalafati Marwan majal lit tashhir wa at-tahyij li 'ilmihi anna dhalika mukhalafatun لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني التشهير بنصح الولاة، ولأنه فهم من قول مروان كما جاء في بعض طرق الحديث أن الناس لا يجلسون لنا. Maintenant, on comprend pourquoi Marwan al-Hakam l'a fait. « الناس لا يجلسون لنا. » D'accord ?« أنه أي مروان فعل ذلك اجتهادا منه. » ولعل ما سقنا يظهر لك أمرين. Donc, qu'est-ce qu'on prend du troisième point du hadith ici ? Abu Sa'id s'est limité à attirer, radiallahu anhu arda, son attention, c'est-à-dire de Marwan, sur la sunna. Et il lui a reproché cet acte contraire à la sunna. Seulement cela, mais il a quand même prié avec lui. Et il n'a pas pris cette transgression de Marwan comme une opportunité pour le dénigrer en public. Et inciter les gens contre lui. Car il savait que ce serait contraire à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de faire ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de dénigrer le gouverneur en public. C'est contraire à la sunna. Et de les exposer en leur faisant le conseil. Ceci est contraire à la sunna. Car il a compris de la parole de Marwan, comme cela a été rapporté dans certaines versions du hadith. Vous voyez encore une fois l'ilm. Quand on connaît toutes les versions du hadith et toutes les toruq, là on peut comprendre les choses. On peut être à même de comprendre les choses correctement. Avec les bons usul et qawaid bien sûr. Dans certaines versions du hadith, que les gens ne s'asseyeront pas devant nous. Marwan il a dit ça. Que les gens ne s'asseyeront pas devant nous. C'est pour ça qu'il a fait passer le khutbah avant la prière. D'accord ? Pourquoi ? Pour que les gens s'asseyent et ils écoutent. C'est-à-dire que Marwan a fait cela par ijtihad de sa part. Maintenant, question. Quand un gouverneur ou un hakim, il fait un ijtihad et se trompe, il est en état de péché ou il est récompensé ? Combien de récompenses ? Une. C'est quoi le dalil ? إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له أجران وإذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. C'est l'ajr de l'ijtihad. Et peut-être qu'avec ce qu'on a vu, il apparaît deux choses. C'est quoi ces deux choses ? أحدهما اتفاق صنيع أبي سعيد في هذا الحديث مع حديث ابن أبي عاصم المتقدم. Maintenant, je pourrais vous poser la question, c'est quoi hadith d'Ibn Abi Asim Mutaqaddim? C'est quoi celui qu'on a vu d'Ibn Abi Asim dans le Sunnah? Il faut suivre. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh? Il dit la conformité de l'action d'Abu Sa'id dans ce hadith avec l'action d'Ibn d'Ibn Abi Asim comme on l'a vu précédemment. Avec le hadith d'Ibn Abi Asim. C'est quoi le hadith d'Ibn Abi Asim? Moi, je viens le revoir au début du cours maintenant ici. J'avais même dit qu'il est rapporté par Ahmed aussi et d'autres. Eh ouais, les frères qui ont la version arabe. Exactement, barakallahu fik. Il n'était même pas là au début du cours. T'as entendu ça au début? Ah ok, inchallah. Exactement, c'est le fait de quoi? من أراد أن ينصح لي دي سلطان ف بيديه ولا يبديه علانية. C'est ça le hadith qu'on a vu. D'accord. Donc on voit la conformité d'Abu Sa'id al-Khudri avec le hadith que Ibn Abi Asim a rapporté dans la sunna. C'est que quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Le mukhasara. Il a pris par la main, taille contre taille, discrètement, il l'a fait nasiha. Alors où est-ce qu'elle est l'ambiguïté maintenant déjà l'innovation? Elle est partie. Elle s'est volatilisée. Avec quoi que l'ilm? Deuxième point qu'on tire de ça, qu'il ne fait pas partie de la voie des salafs de faire des reproches sur le minbar, ni les places publiques, mais qu'il faut faire le conseil dans un secret complet. Comme l'a dit le cheikh ici. وَثَانِهِمَا أَنْهُ لَيْسَ مِنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ أَنْكَارُ عَلَى الْوُلَاتِ عَلَى الْمَنَابِرِ وَلَا فِي الْمَحَافِلِ الْعَامَّةِ بَلْ مُشَافَهَةً وَفِي سِرِّيَةٍ تَامَّةٍ. Sir, caché, secret, discret, tam, complet. D'accord ? Al-Shubha Thaniya. Un petit peu de patience, je voudrais vraiment terminer au moins, minimum, le troisième fondement aujourd'hui, Inch'Allah. Et ça, je pense que ça va vous motiver aussi parce qu'il est prouvé que dans l'enseignement, un des facteurs qui joue sur la motivation de l'élève, c'est la progression. C'est le progrès, pardon. Hein? C'est l'anglais, il a hein? Progression. Hein? Et c'est progrès en français. C'est-à-dire que quand un élève il voit qu'il fait du progrès, eh bien ça quoi? Ça le motive. Donc Inch'Allah, on va essayer de terminer au moins le troisième fondement, comme ça vous voyez que vous avancez. Parce que vous allez dire, eh bien, on tire en longueur ce troisième fondement, hein? Ça fait pas mal, hein? Hein? Ah, t'as marqué, t'as daté, toi, tout. Ouais. Hein, machin, hein. T'as daté quel calendrier hein? T'aurais mieux fait de pas parler, hein. Il y a une khutba d'Abu Malik al-Juhani sur l'importance d'utiliser le calendrier égyrien. Et ça fait partie de Mukhalafat al-Mushrikin. Comment on appelle le calendrier égyrien en arabe d'ailleurs? Quoi, Hijri? Ça, c'est l'adjectif. On a besoin du nom. Ah, il a donné 50% de la réponse. Eh oui. Ana قلت لهم يعني كيف التاريخ الهجري كيف يقال؟ لا ولكن كيف يقال؟ كالندر. الله يبارك فيك. هذا هو تقويم الهجري. C'est ça qu'il a dit. Hein? T'as dit 100% maintenant, alhamdulillah. Ahsan, barakallahu fik. Donc maintenant la deuxième ambiguïté ici, أن المنكرات قد تجاوزت حدها وصارت علانية وهذه الشبهة جوابها من وجهين. Ça c'est une chouba, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. Ouais mais akhi, maintenant ça a changé. Quand tu leur apportes la sunna, c'est trop maintenant ce qu'ils font les gouverneurs. Hein? Et ils le font en public en plus. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette chouba là. Et bien on va répondre à ça inshallah. Cheikh il dit, hein, tu l'entends tout le temps. C'est peut-être pas au bon endroit au bon moment aussi, non?
أولها أن يقال هل عندكم سنة تقول إذا ظهرت المنكرات يجب إظهار النصيحة والتشهير فالجواب أنه لا توجد سنة بذلك بل السنة عامة بسرية النصيحة وسواء كانت المنكرات ظاهرة أو خفية كما في حديث ابن أبي عاصم المتقدم
encore une fois c'est une base hein, ce hadith là d'Ibn Abi Asim. Donc c'est quoi cette deuxième choubha? On l'a dit, c'est que hein, ils font beaucoup, yani elles ont dépassé les limites. Hein? Et qu'ils le font en plus en public. Eh bien, on répond ça de deux manières. Que les péchés ont dépassé les limites et sont faits maintenant en public. Première des manières, c'est de dire qu'avez-vous une preuve de la sunna sur le fait que si le péché est en public, qu'il faut faire le conseil en public et exposer le gouvernant en public. Hein? La réponse, c'est qu'il n'y a aucune preuve de la sunna à ce sujet, mais de plus, la sunna est générale quant au fait de faire le conseil avec discrétion. Que l'erreur elle soit faite en public ou pas, la sunna c'est la même. Tu fais la siha avec discrétion complète. Et ce, que les péchés soient apparents ou cachés, comme dans le hadith d'Ibn Abi Asim que l'on a déjà vu. Deuxième manière de répondre à ça. Thaniyan, alaysa ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam yuballighu an rabbih? Il est obligé de dire bala. Hein? D'accord? بلا إذن فلا تتجاوز السنة إن كنتم منصفين يجب أن تسعكم السنة وإلا كنتم ضالين مضلين عن الهدى مجانبين للصواب بركوبكم القياس العقلي ووقعتم في نهج الخوارج والعذو بالله. Ça, ça me rappelle une belle parole du Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab al-Wassabi, حفظه الله, le savant du Yémen, comme l'appelait Cheikh Najmi, رحمه الله. Il dit, أهل بدع, لو كانوا منصفين, لا كانوا من أهل السنة. Les gens de l'innovation, s'ils étaient justes, s'ils avaient de l'équité, ils feraient partie des gens de la sunna. Lorsqu'on a un homme insaf, l'akanum n'ahl sunna. C'est ça qu'il avait dit exactement. Ahl bid'a al-ahwa, l'akan a un homme insaf, l'akanum n'ahl sunna. Ma ajmal hadil kalima, sarahata. Donc on a dit quoi ici? Deuxième point pour réfuter cette ambiguïté-là. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne transmet-il pas de son Seigneur? Il est obligé de dire, bien sûr que oui. Ne dépassez pas les limites de la sunna si vous êtes juste alors. La sunna doit vous suffire, sinon vous serez égaré, égarant. Écarté de la vérité car vous aurez alors suivi l'analogie rationnelle. Et vous serez tombé dans la voie des khawarij wa l'a'adhu billah. Donc c'est pas une affaire mince. C'est imma sunna imma bid'a. Imma minhaj salaf imma minhaj khawarij. Troisième ambiguïté. On arrive vers la fin, il y en a quatre en tout. La quatrième elle est... La troisième et la quatrième, elles sont assez courtes, incha'Allah. Al-shubatu thalitha. Qawlu ba'din nas, innahu laysa fi riqbati bay'atun, li'annahu lam
يعطي الإمام العهد مباشرة؟ فالجواب عن هذه الشبهة ننقل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: وما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة ولاة الأمر ومناصحتهم واجب على الإنسان، وإن لم يعاهدهم عليه، وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة، كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الطاعة. فإذا حلف على ذلك كان ذلك توكيدا وتثبيتا لما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم. إذن لا ريفيرونس مجموع الفتاوى فوليوم 9 باج 35. اي souvent quand Cheikh Obeid cite, je suis quasi certain, c'est ce qu'il fait souvent, il parle du tertib de Ibn Qasim qui est en 37 volumes. Parce que évidemment, qu'il ne vous fasse pas la blague. Dans le 9e volume, vous ne trouvez pas la réponse. Mais les ulama, quand ils citent une édition particulière, en sachant que les éditions qui ont été compilées de Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, il y a toujours un petit chiffre à côté, après chaque paragraphe. Et vous voyez qu'il est marqué, par exemple, 1, 10. Eh bien, ça veut dire que cette parole-là, elle est dans le volume 1, page 10, dans l'Asl. Dans l'édition complète, en 37 volumes. Troisième ambiguïté, c'est la parole de certaines personnes qui disent « Je n'ai pas de responsabilité engagée concernant l'allégeance, car je n'ai pas fait l'allégeance moi-même au gouvernant. » Vous avez sûrement déjà entendu cette ambiguïté-là. La réponse à cette ambiguïté est dans la narration de la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui dit « Et ce que Allah et son messager alayhi salatu wasalam, ont ordonné comme obéissance au gouverneur et leur conseil est obligatoire pour tout individu. » Écoutez-le maintenant. Et ce même s'il ne leur a pas donné sa parole à ce sujet. C'est-à-dire lui-même. Et même s'il n'a pas juré avec insistance, comme les cinq prières obligatoires sont obligatoires pour lui. La zakat, le jeûne, le pèlerinage, et d'autres choses parmi les choses qu'Allah et son messager ont rendues obligatoires par les mésobéissances. Donc vous comprenez ce qu'il dit sur l'islam ici. Il dit même si toi tu n'as pas fait l'allégeance toi-même directement, et que tu n'as pas promis directement, ça reste obligatoire pour toi, comme les autres obligations de l'islam, salah, zakah, hajj, etc. D'accord ? Maintenant, la question, et même si tu n'as pas juré de le faire, ce qu'on appelle l'ayman, le mu'akkada, tu as juré, c'est-à-dire avec insistance. Et s'il a juré à ce sujet, c'est alors une insistance, un renforcement. Alors si tu as juré de le faire, alhamdulillah, c'est une insistance, un renforcement de la chose, de cette obligation-là. Mais si tu n'as pas juré ou que tu n'as pas donné l'allégeance toi-même, est-ce que c'est obligatoire toujours pour toi? Non, comme les autres obligations de l'islam, d'obéir au gouverneur. Tu ne dois pas attendre de faire l'allégeance toi-même ou de jurer toi-même d'obéir. Vous comprenez ce point-là, c'est important. D'accord? Donc c'est une obligation comme les autres obligations de l'islam. Même si toi, tu ne vas pas chez le gouverneur et tu ne prêtes pas l'allégeance et tu ne lui jures pas de lui obéissance. Même si tu ne fais pas ça, c'est une obligation. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu wassalam te l'ont rendu obligatoire. Que tu aies prêté l'allégeance ou pas, que tu aies juré ou pas. Et si tu as juré, c'est quoi? Une insistance, un renforcement. D'accord? D'accord? Et donc on a dit quoi? Et s'il jure à ce sujet, c'est alors une insistance, un renforcement de ce qu'Allah et son messager ont rendu obligatoire comme obéissance au gouverneur et leur conseil. Recueil de fatwa, comme je l'ai dit, de Cheikh l'Islam, volume 9, page 35. Dernière ambiguïté, quatrième et dernière ambiguïté. Cheikh, évidemment, ici, vous imaginez bien qu'il n'y a pas que quatre ambiguïtés, d'accord? Mais il a rapporté ces quatre-là, à la sabil mithal, et peut-être parce que c'est celles qui sont le plus rapportées, Allahu a'lam. Shubha al-rabi'a, istidlaluhum bi hadith Sayyid al-Shuhada, Hamza ibn Abdul Muttalib. Wa rajulun qama ila imamin ja'irin, fa amarahu wa nahah, fa qatala. فالشاهد منه ورجل قام إلى إمام جائر إلى آخره. Ça, moi j'ai déjà entendu cette choubha d'un tekfiri. Devant moi, il a sorti cette choubha-là. Donc c'est pas une choubha inventée, il existe cette choubha-là. ووجه الدلالة منه عند القوم كما زعموا في التشهير. سبحان الله, chaque fois que j'ai parlé à un tekfiri qui a un respect de ulama, et qui a un peu de ilm, en général il revient. Le danger, c'est ceux qui n'ont pas d'ilm et qui n'ont pas de respect pour l'ulama. ووجود دلالة منه عند القوم كما زعموا في التشهير بأخطاء الحكام وإعلان مثالبهم جمع مثلبة على الملاء وذلك من الصدع بالحق عندهم والجواب عما تضمنه هذا الحديث الصحيح بمجموع طرقه وحمله القوم على ما زعموه من وجوه أحدها ثم ذكر الوجوه. Quatrième ambiguïté, c'est leur utilisation comme preuve du hadith du leader des martyrs, Sayyidou Shuhada, Hamza ibn Abdul Muttalib, qui dit, c'est une partie du hadith, et un homme qui se lève en face du gouverneur, injuste, et lui ordonne et lui interdit. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le gouverneur, il le tue. D'accord? Ce qu'ils utilisent comme preuve dans le hadith, c'est un homme qui se lève en face d'un gouverneur injuste. Donc ils utilisent quoi? Comme le fait de quoi? De le faire en public, de reprocher en public et de se rebeller. Ils utilisent ça comme preuve. Jusqu'à la fin du hadith. Ils utilisent comme preuve pour leur prétention, ils utilisent ce hadith comme preuve pour leur prétention en ce qui concerne le fait de répandre les erreurs des gouvernants ou des gouverneurs et de rendre public leurs défauts. Et chez eux, cela fait partie du fait de dire la vérité. Parce qu'il s'est levé, il a dit la vérité. Nous répondons en ce qui concerne le contenu de ce hadith, qui est authentique en regroupant ces différentes voies et à leurs prétentions concernant ce hadith sous plusieurs angles. Premier des angles, al-wajh al-awwal, awwaluhuma, comme il a dit le cheikh ici, ahaduhuma ma ja'a fil hadith l'akhar an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal afdalu al-jihad kalimatu 'adlin 'inda sultanin ja'irin. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن فإذا ضممت الحديثين إلى بعضهما بان لك أن أمر ذلك الرجل ونهيه ذلك السلطان الجائر كان مشافهة ألا تراه في الحديث الثاني قال عند السلطان الجائر. Regardez, ça c'est, Allah يبارك فيكم, c'est une des règles les plus importantes parmi les règles d'Ahl Sunnah al Jama'a. C'est qu'Ahl Sunnah al Jama'a, quand ils regardent les textes, ils ne regardent pas qu'un le regard d'un borgne. Il ne regarde qu'une partie des textes et il laisse les autres parties des textes. Qu'est-ce qu'ils font? Jam' bayna an-nusus ou bayna an-nusus al-bab. Quand il y a un chapitre, dans l'asma ou sifat, qu'est-ce qu'ils font à Al-Sunnah al-Jama'a? Ils prennent un texte et ils oublient le reste, ou ils prennent tous les textes et ils les comprennent ensemble. Ils regroupent tous les textes. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire le shir ici. Il dit, regarde, si tu prends les deux hadiths, le hadith qu'on vient de citer de Hamza ibn Abdul Muttalib, que ورجل قام إلى إمام قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. دوزم حديث لحد أبو سعيد الخدري سي كوا أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. Pour les frères qui ont fait de l'arabe, maintenant c'est clair. On appelle ça l'indiya dans la langue arabe. Inda, c'est quoi? De se lever sur un minbar, ou d'être en proximité de lui. Proximité d'être. Quand on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, de faire d'être discrètement avec lui, d'être avec lui, de le prendre par la main, toi avec lui, directement, à lui, mushafahatan, comme il a dit le shir. Shir, il dit, وليست العندية هي الخطب التهيجية على المنابر ولا كلمات التحريض في المحافل العامة يوضحه ثاني الأوجه وهو حديث عياد المتقدم من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية الحديث. Non, il a regroupé un troisième hadith avec lui, qu'on a déjà vu avant. Le premier hadith, c'est quoi? Celui qui se lève, un gouvernant. D'accord? Et puis, il dit une parole de haq, etc. Un gouvernant qui est injuste, et il le tue. Premier hadith. Deuxième hadith. Maintenant, on comprend déjà mieux le premier. عند سلطان جائر, proche de lui, qui lui parle directement. Donc c'est pas de monter sur le minbar et de critiquer les hukam. Troisième hadith, c'est quoi? Celui qui est nasiha pour un gouverneur, eh bien qu'il ne le fasse pas en public. Est-ce qu'avec les trois hadiths, c'est pas clair maintenant ensemble? Ça, c'est la voie d'Ahl Sunnah. Parce qu'ils veulent comprendre les textes. La compréhension qui est légiférée. Et ça, c'est souvent un discours que vous entendez même chez les pseudo-intellectuels. Ceux qui veulent l'islam comme eux le veulent, etc. Et que d'ailleurs les koufars poussent beaucoup, etc. Qu'ils appellent les réformateurs, etc. Ils disent, non mais ça c'est ta compréhension mon frère. Ça c'est la compréhension, c'est t'as ton madhhab, yani. Toi t'es salafi, t'es rigoriste dans ta compréhension des textes et les mots un peu savants comme ça. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est pas le Coran, la Sunna, et après toi tu comprends, et moi je comprends, ces différents angles de vue, etc. Non, c'est pas comme ça. Parce que comme on a dit, la religion, elle revient pas à l'aql. Allah a révélé le Coran et la Sunna et il a légiféré une compréhension. C'est la compréhension des salafs. Et c'est la seule qu'Allah a agréée, subhanahu wa ta'ala. Et cette compréhension-là, et l'obligation d'avoir cette compréhension-là, elle est tirée du Coran et de la Sunna. Ce n'est pas quelque chose de libre, tu la comprends comme tu veux.
différentes manières d'approcher la chose, etc. Et, hein, une autre lecture des textes, comme il dit Tariq Ramadan et d'autres comme lui, etc. Hein, une grille de lecture. Tous ces deux mots savants, tout ça pour dire qu'il ne faut pas comprendre la sunna, le Coran et la sunna sans la compréhension des salafs, c'est tout. Hein? Donc on a dit quoi ici? Ce qui a été rapporté, on a dit sous plusieurs angles, ce qui a été rapporté dans l'autre hadith d'Abu Sa'id al-Khudri du prophète alayhi salam qui l'a dit, le meilleur des jihad, c'est-à-dire une parole juste chez un gouverneur injuste. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. C'est pour ça que j'ai traduit par chez, inda. Qui a dit hadith al-Hassan. Si tu mets les deux hadiths ensemble, il t'apparaîtra que l'ordre de cet homme et son interdiction à ce gouverneur injuste se fait par al-Mushafaha. Oralement, directement. Hein? Ne vois-tu pas que dans le deuxième hadith, il dit « Inda sultani jair » C'est-à-dire auprès, chez un gouverneur injuste. D'accord? Et « Inda » c'est quoi dans la langue arabe? C'est quoi? Naam, darf quoi? Darf makan. Et l'indiya, « Inda » tu tirais du « Inda » l'indiya. Ce n'est pas de faire des prêches qui incitent à la haine du haut du minbar, ni de dire des paroles qui incitent contre les gouvernants ou les gouverneurs dans les endroits publics. Le deuxième angle de réponse clarifie cela. Et c'est le hadith d'Iyad qui a précédé. Quiconque a un conseil à faire à un gouverneur, qu'il ne le fasse pas en public. Donc ça va aussi dans le sens d'être proche, directement, comme on l'a dit discrètement, qu'il ne le fasse pas en public. Il y a une interdiction de le faire en public là. Qu'il le prenne par la main. Un ordre de le faire discrètement. Hein, jusqu'à la fin du hadith. Troisième et dernier angle de réponse, on a fini le cours avec ça, inshallah. C'est le wajh al-thalith, ma amara Allah bihi Musa wa akhahu Harun alayhim as-salatu was-salam hina arsalahuma ila fir'auna. Faqul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ala tarahu amara hadhain an-nabiyyain bilin al-khitab ba'aduhu fir'auna. الذي لا يعلم أفجر منه في البشر والعلة لعله يتذكر أو يخشى. Troisième angle de réponse sur cette choubha là, hein? Que quoi, c'est quoi la choubha en fait, la dernière? C'est quoi la choubha, les frères? Non, la choubha, ça c'est la réponse, mais la choubha qu'on avait dit, la dernière choubha qu'on a citée, c'était quoi? Barakallahu fik. Non. Hein? Et c'est quoi le hadith? Qu'un homme? Devant un gouverneur injuste? Non. Barakallahu fik. Ahsantum. Jazakumullahu khairan. Troisième angle de réponse. Ce que Allah a ordonné à Moussa et à son frère Haroun, hein, alayhim as-salam, as-salatu as-salam, les deux, lorsqu'il les a envoyés tous deux à Pharaon. La traduction du sens de la parole d'Allah, surat Taha, verset 43-44, « Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé, puis parlez-lui gentiment. » Layyina, qawlan layyina, layyin. C'est pour ça qu'on dit « lin ». « Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il » Surat Taha, verset 43-44. « Ne vois-tu donc pas cela dans l'affaire de ces deux prophètes, alayhim as-salatu wassalam, qui parlent gentiment avec l'ennemi d'Allah, Pharaon ?» Hein? Dont on ne connaît personne de plus pervers que lui parmi les gens. Ah, ça c'est pas un dalil qawi ça. Hein? Naam. Alors que le kufr de Pharaon, il est dans le Coran. Hein? Il est cité dans le Coran, ça ou là? Hein? Et quelle est la raison de cela? C'est quoi la illa? Regardez la hikma ici. L'ulama comprend nos sources. Eh bien, elle est dans le texte. C'est pour ça qu'il faut lui parler gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou craindra-t-il. D'accord. On a fini avec ça le troisième fondement. Alhamdulillah.